Luc chapitre 16, versets 19 à 31, une histoire que Jésus raconte et une histoire vraie, on va en tirer deux leçons. Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. » Et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » On m'entend pas, on aussi. On m'entend, c'est mieux. Voilà une histoire que Jésus raconte et une histoire qui est vraie. Moi, je pensais un peu en lisant cela au Bataclan, par exemple, à tous ces attentats qui existent aujourd'hui. Et j'avais même lu qu'il y avait un jeune qui était au Bataclan le soir où il y avait les attentats et qui s'est retrouvé à New York il y a une semaine, je crois, où il y a eu 8 morts encore. Je sais pas, c'est quand même curieux, le pauvre garçon. Il devait, à mon avis, de plus en plus réfléchir à la mort, parce que la mort, c'est le lot de tous les hommes et de toutes les femmes. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quelque part, elle a témoigné tout à l'heure, Géraldine, est-ce que je suis prêt à mourir ? Est-ce que je suis prêt à partir ? Jésus ne dit pas que c'est là une parabole. Il dit que c'est une histoire vraie parce qu'il y a des personnages qui existaient et qui sont nommés là. Et à partir de là, ce n'est pas juste une histoire comme cela, c'est une réalité en fait. C'est une description unique qu'on a dans la Bible de ce qui se passe en fait dans la mort après notre vie. Et je pense que ça doit nous faire vraiment réfléchir. Nous avons une vie, et souvent nous avons une vie pour faire un tas de choses, mais... Là, l'histoire nous rappelle que nous avons une vie pour préparer notre mort. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est pas très gai, mais c'est une réalité. Et on voit deux hommes, là, qui sont décrits par le Seigneur. D'abord, l'homme riche, qui a eu une vie matérialiste, une vie somptueuse. Il était plein de pourpre, de fin lin. C'est très cher, ces choses-là, à l'époque. Il avait la nourriture à profusion. Bref, il vivait très bien. Le Seigneur ne dit pas que c'est un péché d'être riche, c'est qu'on se comprenne bien. Mais la différence, c'est qu'il y a des riches qui vivent que pour leur argent, ce dieu mammon, comme il est dit dans les évangiles, et qui en deviennent complètement esclaves. Vous avez le droit d'être riche et chrétien, ça existe. Mais si la richesse vous écarte de Dieu, forcément, c'est dangereux pour vous. Mais lui s'en fichait complètement de Dieu et vivait pleinement une vie égoïste. Il pensait qu'à lui, un peu comme le monde aujourd'hui qui ne pense qu'à eux-mêmes. Et Lazare, il est dit, il était devant sa porte, il avait faim. Donc tous les jours, il le croisait, et il s'en fichait. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 15,7, il était dit dans la loi, « S'il y a quelqu'un chez toi indigent, c'est-à-dire de pauvre, d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. » Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup qui tendent la main, il faut faire le tri, on est d'accord. Mais là, lui connaissait la loi, et en tant que juif, il aurait dû aider cette personne. Mais chaque jour, il passait à côté, il n'avait pas d'amour pour son prochain, il s'en fichait complètement. C'est une vie d'insouciance aussi, parce que souvent, vous attendez à mourir, vous dites c'est aujourd'hui. Si on pouvait reculer un peu, ça serait bien, au moins après le repas. Mais c'est une vie d'insouciance souvent. Et personne ne s'imagine mourir aujourd'hui. Et qui sait ce qui peut arriver là ? Je ne vais pas vous effrayer, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est bien de prendre conscience à un moment que ça va nous arriver de toute façon. Mais lui, il vivait, voilà. Il ne s'attendait pas à mourir. Et puis le matérialisme, vous savez, ça distrait beaucoup l'âme. On est occupé. On ne pense plus aux choses ou aux réalités spirituelles. Mais la mort ne prévient pas. Et dans Luc 12, 20, il est dit... Mais Dieu lui dit à un homme, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, Est-ce que tu as préparé, parce que cet homme avait préparé plein de choses pour lui-même, ben finalement, à quoi ça va lui servir? Des fois, on amasse un tas de choses, comme notre frère l'a dit tout à l'heure. Enfin, j'espère qu'il ne va pas mourir. Hein. Mais voilà, on fait plein de choses, mais on ne réfléchit pas qu'il y a une réalité là. Et il faut la préparer. L'homme riche vivait 100 fois, certainement, parce qu'il a refusé de croire. Hein. Il le dira lui-même une fois qu'il sera en enfer. Il n'est pas en enfer parce qu'il était riche. Il est en enfer parce que Dieu l'a certainement appelé d'une manière ou d'une autre, mais il n'a pas écouté le Seigneur. Il n'a pas cru, comme il disait, dans Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, on a la Bible au complet, mais à l'époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et il n'a pas cru à ces choses-là. Et la Bible lui disait à ce moment-là, enfin, Moïse et les prophètes lui disaient, il faut se préparer pour mourir aussi. Il y a un enfer et un paradis. Il n'a pas pris Dieu au sérieux. Et combien il y a de gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux? Oui, Dieu, il est là. Hein. Et comme de toute façon, je ne vais pas mourir aujourd'hui, je ne vais pas trop m'en inquiéter. On verra quand je serai sur mon lit de mort. Ça va des fois beaucoup plus vite que ça. Une vie avec une fin aussi, puisque chacun en aura une fin dans cette vie, hélas. Hein, il est dit, il est enseveli. Et le corps dont il a pris soin toute sa vie, hein, il a aimé, ben finalement, ça retourne à la poussière. On fait un tas de choses pour nous-mêmes et finalement, on redeviendra poussière. À quoi ça a servi? Il est dit, son âme est au séjour des morts, c'est-à-dire dans le lieu de tourment, ce lieu qui est loin de Dieu. On appelle ça communément l'enfer. On ne trouvera jamais le mot enfer dans la Bible, mais il y a des lieux comme ceux-là qui sont décrits. Et lui est maintenant séparé pour toujours de l'amour de Dieu. Toujours, éternellement. Pour les disciples, eux, ils ne comprenaient pas, parce qu'à l'époque, les Juifs, ils pensaient que quand vous êtes riches, vous êtes bénis de Dieu. Ben là, Jésus est en train de les reprendre. Ce n'est pas la richesse qui démontre que vous êtes bénis de Dieu. Si vous l'êtes et que vous êtes chrétien, c'est très bien. Servez-vous-en pour l'Église. Si vous ne l'êtes pas, Dieu vous aime quand même. Et il vous bénit d'une autre manière. Mais la richesse n'est pas ce qui m'emmène en enfer ou pas. C'est ma foi, tout simplement. Ensuite, on voit Lazare, sa vie, il n'est pas dit grand-chose, mais on a vu qu'il a vécu une vie misérable, je ne vous la souhaite pas. Hein. Lazare, le terme équivalent en hébreu signifie « Dieu, mon aide » ou « Dieu a secouru ». Lui ne possédait rien. En plus, il avait une mauvaise santé, il avait faim, et puis les chiens qui lui lèchent les ulcères. Ça vous branche? Non, ça ne branche pas trop, non. Hein. Mais il y a des gens comme ça, qui vivent comme ça. Je suis désolé, hein. Nous, on est bien en France, mais il y a des gens qui souffrent comme cela. Il avait peut-être pas une vie riche en matérialisme, mais peut-être une vie riche spirituellement. La Bible ne dit pas, mais on peut imaginer cela dans son nom, puisque Dieu a secouru, et donc il a dû appeler certainement Dieu plus d'une fois. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est sauvé, on est bien d'accord, c'est parce qu'il a cru certainement en Moïse et les prophètes, et donc dans ce que Dieu lui demandait de faire. Et la mort de Lazare est intéressante parce que dans l'Ancien Testament, enfin là, à ce moment-là, il dit qu'il a été accompagné par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'était à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui le paradis. Mais il y avait des anges qui l'ont accompagné. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe le jour où nous partons. J'espère qu'il y aura des anges qui vont nous emmener. La Bible dit rien. On verra bien de toute façon, un jour ou l'autre. Désolé. Hein. Mais lui, il est dit, à présent, il est consolé pour toujours. Voilà la promesse de Dieu pour celui qui croit en lui. Voilà la promesse pour Géraldine. Voilà la promesse pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. On peut passer peut-être une vie difficile avec des hauts et des bas, mais imaginez l'éternité consolée par Jésus-Christ. La paix, pour toujours. Oh, c'est pas terrible, hein ? Il y a si peu qui la veulent. C'est que ça doit pas être intéressant, à mon avis. Hein ? L'enfer, ça doit être plus sympa. Hein ? Ça brûle, il y a des boîtes de nuit, il y a tout. Je sais pas s'il y a des boîtes de nuit, mais à mon avis, ils n'auront pas trop envie de jancer. Mais il est consolé pour toujours, et dans le Nouveau Testament, on parle aujourd'hui plutôt du paradis, et celui qui part et qui croit en Jésus-Christ, et qui l'a accepté, surtout dans sa vie, et lui obéit, lui, il ira au paradis. Dieu nous donne toute une vie pour préparer notre départ. Alors des fois, elle est plus ou moins longue, il y en a qui en ont très longue, il y en a qui en ont moins longue, mais il nous tient pour responsables devant le choix que l'on a à faire, d'au moins réfléchir à un moment, pourquoi pas de prendre la Bible, de la lire une fois, au moins le Nouveau Testament, je sais que c'est un gros pavé, hein. Mais c'est pas parce que je veux pas la lire que je ne serai pas responsable devant Dieu. Je suis responsable devant Dieu, et j'ai un choix à faire. Qu'est-ce qu'on en fait? Puis on a une description, là, dans Luc, de ce qui se passe dans la mort, hein. Alors, il y a pas tous les détails, mais on parle là du séjour des morts avant l'ascension de Jésus, parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. On parlait à l'époque du Hadès en grec ou du Sheol, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces noms. C'est là où allaient tous les morts, les justes et les injustes. Hein, il y avait un seul lieu et c'était coupé en deux parties. Et il y avait le sein d'Abraham, c'était ce qu'on appelle le paradis, et c'est là où est allé Lazare. Et il y avait une forme de communion, de joie là-dedans, hein, les avant-goûts de l'éternité. Et il y avait une partie pour les injustes, là où s'est retrouvé l'homme riche, celui qui n'a pas cru et qui n'a pas accepté Dieu dans sa vie. Donc deux endroits. Les choses ont changé, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, hein, venez me voir tout à l'heure pour que je vous explique, mais une fois que Jésus-Christ est mort, ressuscité et qu'il est monté au ciel, ce Saint d'Abraham, cette partie où il y avait les justes, est monté au ciel, on pourrait dire, hein, c'est une image évidemment, mais aujourd'hui en fait, si en tant que chrétien je décède, je vais directement dans le paradis rejoindre Jésus-Christ. Vous y avez déjà pensé le jour où vous retrouvez devant Jésus-Christ? Bonjour, c'est moi Emmanuel. Ça va faire bizarre, hein. Si vous prenez le temps de lire la Bible, vous allez voir que c'est grandiose et que ça devrait plutôt nous faire craindre. Jésus, c'est notre pote, souvent dans notre tête, mais quand on le verra dans sa gloire, puissant comme il est, je crois qu'on va juste s'agenouiller devant lui et dire « Gloire à Dieu », tout simplement. Mais le lieu de tourment, lui, n'a pas bougé. Et donc, si je n'ai pas accepté Jésus-Christ dans ma vie, ben, je suis jeté dans ce lieu de tourment pour l'éternité, là où sont tous les perdus. Intéressant, dans le texte, il est dit qu'il y a un grand abîme qui sépare en fait ces deux parties à l'époque, le paradis et l'enfer. Hein, pour que, en fait, si j'étais en enfer, je ne puisse pas aller au paradis. Je ne pense pas que l'inverse se fasse. Hein. Si je suis au paradis, je ne vais sûrement pas vouloir aller en enfer. Mais en fait, à partir du moment que je suis mort, je suis dans un endroit ou dans l'autre, il n'y a plus aucune possibilité de passer d'un endroit à l'autre. C'est surtout ça que la Bible veut nous expliquer. C'est intéressant parce que l'homme riche doit lever les yeux pour voir Lazare. C'est comme s'il était dans un lieu qui était inférieur par rapport à là où était Lazare dans le paradis. Il n'y a pas beaucoup d'avantages d'aller en enfer, je crois. Mais il faut réfléchir. Et puis, il décrit un peu l'état des morts. L'état, enfin, une description de l'enfer. Hein. C'est un état conscient, comme aujourd'hui. Vous avez une conscience, vous comprenez, vous sentez, vous ressentez. C'est exactement la même chose dans le séjour des morts. C'est un lieu de vie, en fait, la mort, curieusement. Un paradoxe. Hein. La vie spirituelle que l'on vit aujourd'hui, elle continuera selon le chemin que vous avez pris. L'homme riche lève les yeux et il voit Lazare qui est certainement heureux, hein, puisqu'il fait un contraste avec ce Lazare. Il commence à comprendre sa situation. Je suis en enfer. Pour l'éternité. Vous imaginez le déclic d'un coup, de comprendre ça? Et vous ne pouvez plus rien faire. Plus rien. Plus jamais. Ça doit faire un sacré choc. Et en plus, il voit le paradis. Alors, ça doit être cruel, quelque part, de réaliser que lui, il a cru, il a accepté, et maintenant, il va vivre pour l'éternité bien. Il a loupé la grâce, tout simplement. Il a loupé de faire le bon choix. C'est terrible, quand même. Hein. C'est juste un choix dans une vie. C'est pas le moindre, je sais, mais c'est un choix. Et il voit le paradis, il réalise combien Lazare est bien. Il peut même communiquer, il semblerait, hein, là, dans la mort, puisqu'il va parler avec Abraham. On se demande pourquoi il parle qu'avec Abraham et pas Lazare. Ça, Dieu vous l'expliquera. Moi, j'ai aucune explication. Mais en tout cas, le dialogue se met en place. C'est intéressant parce qu'il reconnaît aussi les morts. Hein. On va se reconnaître quand on va mourir. Et pour ceux qui sont dans le paradis, on rencontrera Jésus, on rencontrera l'apôtre Paul, on rencontrera tous ces gens qui sont dans la Bible. Et bonjour David, bonjour Saül, je ne sais pas s'il est sauvé, bon, on verra bien. Hein. Mais voilà, il reconnaissait, ça veut dire qu'il a vraiment un état de conscience. Et en plus, il reconnaît Abraham et qu'il ne l'a jamais vu, puisqu'Abraham est né il y a bien, bien avant. Donc c'est vraiment un état de conscience clair, une intelligence qui fonctionne à fond avec son raisonnement, comme quand on est vivant. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme riche? Il supplie Abraham d'aller prévenir les frères. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est bien? Il est tranquille en enfer? Ben non, il a pigé que... Il vient de faire une sacrée, sacrée erreur. Il ne voudrait pas que cette erreur, les autres la vivent aussi. Et donc, il demande à Abraham d'aller les prévenir. C'est vrai, l'enfer existe. C'est ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Et la Bible nous parle d'un état de souffrance. Hein. Le mot qui est employé quand il dit qu'il était en proie au tourment, c'est en fait le chevalet ou l'instrument de torture par lequel on force à dire quelqu'un la vérité. Vous imaginez la pire des tortures, c'est ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Il avait mal, il souffrait. C'était dur. Et il avait tellement mal qu'il demande justement d'être rafraîchi, hein, puisqu'il souffre dans la flamme. Jésus a parlé plusieurs fois, et même plus de l'enfer que du paradis quand il était sur la terre. Pourquoi? Pas parce qu'il a envie de faire un exposé de l'enfer, parce qu'il ne veut pas qu'on y aille. Parce qu'il sait ce qui se passe là-bas. Il connaît ce qui se passe là-bas. Et il a tout fait justement pour qu'on ne puisse pas y aller. Maintenant, ça dépend si j'y crois ou si j'y crois pas. Il dit que Jésus parle de l'enfer, de la géhenne, mais... Il parle aussi du ver qui ne meurt point, hein, qui vronge, le feu éternel qui brûle tout le temps, tout le temps. Il parle aussi de joie, mais là, c'est la joie pour celui qui est sauvé. Et la Bible nous dit qu'une fois qu'on sera dans le paradis, plus de larmes, plus de maladies, un corps parfait. Vous n'irez plus chez le médecin. Il n'y aura plus de médecin là-haut, de toute façon. Qu'est-ce que vous préférez? Il y en a qui aiment l'enfer. Vous avez le droit, hein, personne ne vous interdit d'aller en enfer. Mais il y a un choix qui est fait là. Et on voit surtout un état de regret aussi. Hein, il voit le paradis, il voit qu'il, lui, il est dans un état de souffrance, il voit qu'il y a l'amour de Dieu là, et il y a, excusez-moi le terme, l'amour du diable pour lui à ce moment-là. Celui qui m'a trompé, celui qui m'a fait croire certaines choses dans ma vie. Il m'a trompé. Et lui, il veut avertir les frères parce qu'il dit que c'est une réalité l'enfer. Mais il connaissait Moïse, il connaissait les prophètes, il n'en a pas tenu compte. Il savait qu'il y avait une Bible quelque part, il ne l'a pas lu, il n'y a pas cru, tout simplement. Quelque part, pour moi, l'homme riche en enfer devient une espèce d'évangéliste. Un peu trop tard, hein, mais il demande à Abraham d'avertir les frères, donc d'annoncer la bonne nouvelle, que c'est possible de ne pas aller en enfer. Mais pour lui, c'est trop tard. Il est en train d'évangéliser, si on a envie de dire comme cela, en enfer. Moi, je me pose la question, c'est pourquoi on refuse de croire aujourd'hui ou d'avoir la foi, alors qu'un jour, de toute façon, je vais l'acquérir, mais peut-être en enfer. Parce que vous aurez la foi à ce moment-là. Vous croirez, vous n'aurez pas le choix. Alors que Jésus nous propose d'avoir la foi avant, et de croire en lui et en son sacrifice, de croire que je suis pécheur, et tout le monde, nous avons tous péché, vous n'avez peut-être pas tué, mais vous avez menti, vous avez eu des mauvaises pensées pour quelqu'un un jour, et la Bible nous dit que le moindre péché me sépare de Dieu. Et parce que je suis séparé, je vais en enfer. Mais Jésus a dit, je vais donner ma vie pour ces gens-là qui ne peuvent rien faire. Et s'ils acceptent cela, ben, ils sont tout simplement sauvés. C'est formidable l'amour de Christ, non? Je dis souvent, Jésus, il aurait pu nous regarder en disant, mais vous voulez être dans votre péché, mais restez dans votre péché, les gars, hein. Pas de problème. Pourquoi moi j'irais descendre? J'étais dans la gloire, les anges me servaient, je vais descendre devenir un homme avec nos maladies et tout ça, et en plus il faut que j'aille mourir sur une croix et porter tous vos péchés, tous, hein, parce que quand ils culpabilisent nous de notre péché, vous imaginez quand il y a des milliards de péchés en même temps, et il a tout porté à ce moment-là, pour des gens qui ne connaissaient pas, qui n'en voulaient pas du tout, mais il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Il y a un avenir aussi du séjour des morts, hein. Il faudrait voir dans d'autres passages de la Bible, mais on ne peut pas tout lire. Il y a l'attente du jugement au grand trône blanc pour ceux qui sont dans ce séjour des injustes. Hein. À un moment, ils vont ressusciter, pas croire qu'il n'y a rien après, ils vont ressusciter quand Jésus reviendra. Et comme dit Apocalypse, ils seront simplement jugés. Vous n'avez pas voulu croire en Dieu, c'est votre choix, je le respecte. Et maintenant, vous allez être jetés dans les temps de feu. C'est l'enfer, en fait, pour l'éternité. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est dit qu'il est grand et petit. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'il faut attendre d'avoir 50 ans ou 60 ans pour faire ce choix. Il y a un âge de raison, je pense, et Dieu est juste. Mais quand même, on doit réfléchir le plus rapidement possible. Et le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu, là où il y a, la Bible dit, Satan. Voilà, ben, j'ai voulu suivre Satan, ben, je partageais son éternité. Là où il y a aussi la bête, hein, le faux prophète. Etc., etc. La Bible ne dit pas que c'est un annihilisme ou qu'un annihilisme existe. L'annihilisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est que se dire que de toute façon, après la mort, il n'y a rien. Bon, moi, je dis souvent, si vraiment il n'y a rien après la mort, excusez-moi ce que je vais dire, mais moi, je vais cambrioler les banques. Hein. Je ne suis pas responsable, donc ça va. Mais si j'arrive à ne pas me faire choper, je vais aller à Tahiti et passer une bonne vie. Hein. Si je ne suis pas responsable, autant y aller. Hein. Profitons de la vie. Mais je crois, justement, qu'il y a quelque chose après et que Dieu me tient absolument responsable. La mort, c'est une vie éternelle. Paradoxe, mais c'est vrai. L'enfer, c'est l'éternel regret pour moi d'avoir fait un mauvais choix, souvent à cause de notre orgueil. Moi, pécheur, les autres font pire que moi, ce que j'entends souvent. Hein. Je n'ai jamais péché comme je ne sais pas qui. Mais c'est l'orgueil, ça, tout simplement, de ne pas reconnaître son péché devant Dieu. On a tous péché à un moment. Et puis, si vous dites que vous n'avez pas péché, ben vous venez de commettre le premier, mentir. Donc vous voyez, on a tous péché, et parce que, à cause de notre orgueil, bien souvent, on ne veut pas s'agenouiller devant Jésus-Christ, pleurer sur ce péché et demander pardon, tout simplement. Et Jésus nous prend dans ses bras. Et puis, on voit encore la mort et moi. Alors, pour l'homme riche, c'est trop tard. Mais pour moi, ce n'est pas trop tard. C'est ça qui est intéressant ce matin. J'ai un choix à faire aujourd'hui, mais un choix avec des conséquences éternelles. On l'a dit, la mort, ça n'avertit absolument personne. Ça surprend à chaque moment et ça devrait justement nous faire réfléchir. Si vous saviez que vous alliez mourir demain matin à 8 h, vous feriez quoi? Je suis sûr que j'aurai plein de monde dans mon bureau tout à l'heure. Enfin, j'espère. Vous seriez fous. Mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver demain matin, vous savez, vous ? Moi, je ne sais pas. Vous avez vu, avec les attentats, c'est bien, parce que ça fait réfléchir. Ça vient n'importe où. Alors, je ne vous le souhaite évidemment pas. Je préférerais que vous preniez le temps d'y réfléchir. Mais on ne meurt qu'une fois. Une seule fois. Pas deux, trois, une fois. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27 qu'après la mort vient le jugement. Une fois que je suis mort, je ne peux plus gratter quelque part, faire quelque chose, c'est trop tard. Je suis au ciel ou je suis en enfer, mais il n'y a plus de choix à faire à ce moment-là. La question qu'on doit se poser ce matin, et au travers du baptême de Géraldine, c'est est-ce que je suis prêt ? Être prêt, parce qu'on l'entend souvent, ça veut dire être né de nouveau. Elle en a parlé tout à l'heure. Être né de nouveau, ça veut dire avoir accepté que je suis pécheur, le reconnaître honnêtement devant Dieu. Et quand on le fait, je crois qu'avec le recul, on peut pleurer sur notre péché. Quand on a accepté qu'on est pécheur, on accepte aussi qu'on est condamné à cause de ce péché. Et c'est juste devant Dieu. Mais si on a compris qui est Jésus-Christ, il tend à ce moment-là la main, il dit « Je suis mort à ta place et je veux tout simplement te gracier ». Je ne sais pas si vous avez connu, il y en a beaucoup qui sont jeunes, mais à l'époque, il y avait la peine de mort en France. Et j'imagine que quand le président donnait une grâce à quelqu'un qui était condamné à mort, il devait être bien heureux, à mon avis. C'est exactement la même chose de ce que Jésus-Christ a fait pour nous au travers de la grâce. Il me permet d'être gracié de mon péché. Vous savez, le diable ment. Tu as le temps. T'es jeune. Allez, vas-y, profite de la vie. On a le temps, on est jeune. Tu fais le bien, donc Dieu, il va approuver quelque part. J'ai ma religion. Et souvent, les religions, c'est plutôt par les œuvres que par la foi. Et puis, le diable ment. Et puis, à un moment, je suis en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai loupé quelque chose ? Eh oui, le diable ment et il ment à tout le monde. Il ment au point de dire que le diable n'existe plus. Comme ça, il peut mieux travailler. Eh oui, allez dans la rue, dites le diable existe. C'est pas Halloween aujourd'hui. Hein. Il va vous prendre pour un fou. Mais quand vous voyez les morts, la guerre, tout ce qui se passe, vous croyez que Satan n'existe pas ? Ou aussi ? Même si l'homme a sa responsabilité. Hein. On préfère des fois accuser Dieu des guerres, etc. Mais Dieu, il ne veut pas ça. Hein. Il n'a jamais eu l'idée de faire ça. Comprenons aussi que la mort est éternelle et immuable. Il n'y a pas de retour, on l'a dit, de traversée possible, de changement possible. Une fois qu'on est mort, c'est trop tard. C'est trop tard. Et il faut vraiment y réfléchir aujourd'hui. Dieu me tient pour responsable. Aujourd'hui, on peut faire un bon choix. Peut-être pas demain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut y réfléchir. Et la Bible nous dit, au travers de cette histoire, que la parole est suffisante pour croire. Vous allez me dire, mais comment je peux croire ? Eh bien, la Bible est là. Elle dit qu'elle produit la foi dans Romains. Hein, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est ce qui produit la foi. Ça ne tombe pas sur le coin de la figure un jour quand je suis à Leclerc ou je ne sais pas. Tiens, j'ai la foi. Non. Il faut entendre parler de la parole de Dieu. Ou peut-être au travers d'un témoignage. Mais ensuite, ça devrait vous conduire vers au moins les évangiles. Et prenez le temps de lire au moins Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est pas long à lire. De voir ce que Jésus-Christ a fait, combien il vous aime, et l'œuvre de grâce qu'il a accomplie pour chacun d'entre vous. La foi vient de la parole. Et la parole dit que je suis pécheur. Et la parole dit que je suis condamné, mais elle me dit aussi qu'il y a possibilité d'être gracié. Il ne s'agit pas de croire en Dieu seulement, parce que dans Jacques, il est dit, les démons croient aussi en Dieu, parce qu'ils l'ont vu. C'était des anciens anges avant, mais qui ont refusé d'obéir à Dieu. Eux croient, mais ils n'obéissent pas. Beaucoup de gens me disent, je crois en Dieu, oui, mais il faut obéir. Si je crois que Dieu va me punir, ben, je vais quand même réagir quelque part. Il faut que j'obéisse. Donc il ne s'agit pas de croire seulement, mais il faut aussi obéir à ce que Jésus demande. Et c'est intéressant parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Moi, j'aimerais un miracle dans ma vie pour croire en Dieu. » Et là, c'est ce que dit l'homme riche. Hein, c'est un argument de l'homme riche. Hein. Si quelqu'un revenait des morts, eh bien, tout le monde croirait d'un seul coup. Il y a quelqu'un qui est revenu des morts, non ? Qui ça ? Jésus-Christ. Qui a cru ? Pas beaucoup. Même les disciples, ils avaient des doutes. Hein. Donc son argument n'est pas très valable. Et même si un jour, quelqu'un dans la rue vient vous voir, « Écoute, je reviens des morts, là, voilà. » je veux parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous lui direz ? Hein, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas par le miraculeux que l'on doit accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et beaucoup de gens cherchent de cette manière-là. Dieu peut faire des miracles. Dieu peut guérir miraculeusement. Mais ça ne produit pas forcément la foi. Il y avait 10 lépreux à un moment, ils ont été tous guéris. Il n'y en a qu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. C'est accepter simplement ce que dit la Bible sur moi, mon état, mais aussi ce que Dieu veut faire avec moi. Le retour d'un mort ne poussera jamais à croire, la guérison ne poussera jamais à croire. Mais la parole de Dieu me pousse à croire que Jésus-Christ est ressuscité, même si peu ont cru. Donc la Bible avertit clairement de l'enfer, Mais en même temps, parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible, elle offre clairement la bonne nouvelle pour celui qui croit. La question que je vous pose aujourd'hui, et ça vous le faites dans votre cœur, est-ce que vous le voulez? C'est toute la question qu'on peut se poser. Pour terminer, ce texte nous rappelle la réalité du monde invisible et de la mort. On vit tranquillement, mais en attendant, il y a une réalité qui nous attend tous, hélas. Et le Seigneur est bon parce qu'il vous a laissé encore une journée aujourd'hui pour réfléchir à ça. C'est génial. On aurait pu venir tout à l'heure, avoir un accident, et ça arrive. Mais vous avez encore une journée, peut-être un repas, j'espère beaucoup plus, parce que je veux être le meilleur, évidemment. Mais il faut réfléchir aujourd'hui, pas demain. Deux mondes existent après la mort, on l'a vu, être proche de Dieu, et je crois qu'il n'y a pas meilleur d'être près de Dieu, ou en être éloigné pour toujours. Le Seigneur nous laisse un temps de vie pour faire un choix, mais il vous invite aujourd'hui à croire. Oh, le Seigneur est bon, il reviendra demain pour vous taper un petit peu sur la porte du cœur et vous dire, tu te souviens ce que tu as entendu hier? Si vous ne l'avez pas accepté, évidemment, dans votre vie. Prenez la vie et la mort au sérieux, c'est tout ce que j'ai envie de transmettre comme message, et un peu ce que Géraldine aussi a fait aujourd'hui au travers de ce baptême. Préparez votre avenir. Vous avez tous une assurance, non? Une mutuelle ou des choses comme ça, parce que vous avez peur que votre voiture ou je ne sais pas. Pourquoi vous ne prenez pas une assurance éternelle? C'est gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, c'est formidable, non? Prenez-la, cette assurance. Il suffit de croire en Jésus-Christ et de faire tout simplement ce qu'il me demande. Lisez la Bible et vous croirez, vous verrez. Mais pour les chrétiens, pour nous, on se réjouit aujourd'hui déjà du baptême. Quelqu'un avait dit tout à l'heure, le ciel est heureux, les anges sont heureux quand quelqu'un accepte Jésus-Christ. Et nous, combien on est aussi heureux d'accepter Géraldine dans l'Église, je parle universelle, pas dans cette Église seulement, mais dans le corps de Christ. C'est de la joie pour nous et ça nous montre combien Dieu travaille encore les cœurs, même sans nous. Merci Seigneur, parce que des fois, on fait peut-être pas si bien que ça, mais bon. Mais la mort est le début de la vie éternelle et je vous pousse vraiment à y réfléchir aujourd'hui. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. On pourrait en douter et se dire que c'est qu'un livre comme les autres, mais elle est prophétique et combien de choses sont accomplies à la lettre, Seigneur. Et nous croyons que tout ce que tu as promis pour l'avenir s'accomplira aussi littéralement. Seigneur, tu nous avertis aujourd'hui du risque que nous avons de ne pas croire en toi, de ne pas te prendre au sérieux, Seigneur. Tu connais les cœurs de chacun et je te demande de les travailler par ton esprit, que tu les convainc, Seigneur, à au moins réfléchir tout simplement à ce choix qu'ils ont à faire devant toi, à comprendre leurs responsabilités. Et pour nous qui t'avons accepté, Seigneur, nous voulons tout simplement nous réjouir par avance de l'avenir qui nous attend, d'être auprès de toi pour l'éternité, de pouvoir partager ton amour, Seigneur, et toute ta joie. Nous voulons être reconnaissants ce matin, et nous le ferons tout à l'heure au travers de la scène, parce que tu as accepté d'aller sur cette croix, de mourir pour moi qui étais pécheur, qui ne voulais pas de toi, qui te haïssais peut-être même, mais tu m'as aimé comme personne ne m'a jamais aimé, Seigneur, et nous voulons t'en rendre gloire tout simplement ce matin dans cette assemblée. Nous en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.